Bonjour.
Et bonjour.
Et on commence avec Christian. Alors Christian, vous êtes directeur artistique du Dakiling. Mais qu'est-ce que c'est le Dakiling ? C'est un lieu culturel à Marseille dans le premier arrondissement centré autour de la figure grotesque et attachante du clown. Et ils ont une définition du clown très large, je crois, dans ce lieu. Une discipline qui a beaucoup évolué. Alors le clown, qu'est-ce que c'est ? Comment vous le définissez ?
Ah, question très classique qu'on me pose régulièrement, évidemment. La définition du clown. Alors, généralement, j'ai dit, il n'y en a pas une. Il y a des définitions parce que, justement, depuis 20 ans, on s'emploie à démontrer que ce personnage a plusieurs figures et qu'il a su sortir de son cadre ancestral qui était la piste de cirque. Et découvrir vers des nouvelles disciplines le théâtre. En fait, notre direction artistique, elle se situe, j'allais dire, entre les arts de la rue, le cirque, parce que voilà, on vient de là quand même, le cinéma burlesque, le théâtre. Et ce qui fait lien, en tout cas, dans tous ces spectacles qui sont parfois très très différents, hein, c'est vraiment ce qu'on défend, c'est faire rire. Voilà, pour nous, c'est vraiment central. C'est très assumé et vraiment le rire, voilà, le rire qui vient du fond du bas-ventre est un peu irrésistible. Voilà, on cherche vraiment à faire rire notre public et je crois qu'on y arrive là depuis une vingtaine d'années.
Et quoi de mieux qu'en parler en ce 1er avril, vendredi 1er avril. Alors, qu'est-ce que le Dakiling ? Enfin, en tout cas, comment vous décrivez ce lieu qui signifie jardin des muses en sanskrit ?
En sanskrit, oui. En fait, le nom m'est venu au tout début parce que je voulais en faire un lieu pluridisciplinaire. Et ce qui a été le cas, en fait, pendant les trois premières saisons.
Ça a commencé en 2001.
En 2001, ouais, voilà, ça remonte un petit peu maintenant. Et au début, voilà, il y avait aussi bien de la danse, des projections, du théâtre déjà, des expos, de la musique. Et en fait, petit à petit, par goût et pour, j'allais dire, arriver à fidéliser aussi un public et à donner une direction artistique un peu plus précise, un peu plus contournée, on est allé vers l'univers du clown. Alors encore une fois, on en a une définition qui est très très large. Hein. Il faut tout de suite s'enlever la représentation du nez rouge et du clown de cirque. Souvent, enfin, la majeure partie de nos spectacles, d'ailleurs, les comédiens n'ont pas de nez, ils ne sont pas forcément maquillés. Et voilà, encore une fois, ce qui est central, c'est qu'ils nous font bien marrer.
Et est-ce que vous avez toujours été du coup au 45A rue d'Aubagne ? Et c'est quoi l'histoire de ce lieu en fait ?
Alors oui, ça on n'a jamais changé d'adresse. Le 45A rue d'Aubagne, alors les bâtiments sont très très anciens, hein, puisque ça, on a retrouvé des traces, ça appartenait aux grands Augustins, c'est des moines qui avaient construit ce bâtiment en 1300 et 1380, donc on est milieu de Moyen-Âge, début de Moyen-Âge. Et eux avaient leur monastère vers le vieux port. Et ils avaient construit ce bâtiment pour stocker du grain et des étables. On rêve, on pense qu'ils faisaient aussi beaucoup de bière. Parce que voilà,
ça sent la bière dans
oui,
les lieux.
Oui, bah, on a un bar. Et après, la salle a eu une affectation culturelle assez rapidement, puisque c'est devenu une école de musique. On pourrait dire le premier conservatoire de Marseille. Ça m'a été soufflé par le directeur du conservatoire qui fête le conservatoire ses 200 ans. Eux. Ouais, ils sont plus anciens que nous. Et puis, son histoire plus moderne, c'est l'ancienne salle des ventes en fait, de Marseille. Et l'activité salle des ventes s'est arrêtée au début des années 80. Donc, il y a encore des Marseillais qui connaissaient cette affectation.
Qu'est-ce qu'on entend par salle des ventes ?
Commissaire-priseur, les ventes aux enchères. Voilà, donc en fait, la rue d'Aubagne et tout le haut de la rue d'Aubagne, c'était des commerces de prestige, des antiquaires, des bijoutiers. Voilà, ça a un petit peu changé, quoique. Et puis le bas de Noailles a toujours été ce qu'on dit souvent le ventre de Marseille. Donc tout ce qui est commerce de bouche avec les Halles de la Croix et le marché des Capucins. Et donc la salle des ventes, voilà, travaillait avec tous ces antiquaires. Et c'était vraiment le lieu central dans la rue d'Aubagne. Et nous, donc, on l'a... Alors, le Tadei Bernardine l'a occupé juste un petit peu avant nous. Mais il ne l'exploitait pas pour recevoir du public. Et nous, on l'a habilité pour recevoir du public en 2001, déjà.
Et l'architecture est particulière, parce que c'est tout en voûte. Comment est-ce qu'on pourrait le décrire aussi ? Comment il est physiquement ?
Tout en voûte, comme
en pierre.
Voilà, en vieille pierre. Alors, il n'y a jamais eu d'affectation religieuse. Hein. Ça n'a jamais été un lieu de culte. Mais ça ressemble un peu à une chapelle, hein, puisqu'il y a des flèches. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 alcôves. Elle est plutôt en long et très, très voûtée. C'est une très belle salle avec une acoustique un peu particulière, mais qui est très acoustique aussi. Les chorales adorent venir chanter chez nous.
Et comment vous avez découvert ce lieu? Comment vous en êtes saisi?
En habitant en Ohio, en fait, et en découvrant ce lieu, parce qu'il y a eu plein de manifestations culturelles, et avant de faire le Ducky Link, j'avais d'autres associations dans lesquelles on a travaillé, on a organisé des soirées, des concerts, des expos là-bas, avant que ça soit le Ducky Link.
Et vous êtes vous n'êtes pas propriétaire du lieu ou...
Non.
Et c'est une association qui gère le lieu, Citizen Café. Pourquoi vous avez décidé de choisir cette forme associative?
Alors là aussi, un peu d'histoire, puisque au démarrage, en fait, je voulais sortir du format associatif. Et en 2001, on avait créé une SCOP, une société coopérative d'ouvriers de production. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent. Donc ça reste une entreprise, on va dire... mais avec la philosophie ou d'une association. Mais je voulais aller vers un format entrepreneurial, notamment pour des questions de relations bancaires, etc., et de changer un petit peu d'habitude pour monter vraiment une entreprise, ce qu'on a fait. Et en fait, assez rapidement, parce que c'était le tout début de ces formes de sociétés qui maintenant sont très répandues, très connues. Et en fait, on s'est heurté à un personnage assez important dans une municipalité qui s'appelle le trésorier payeur et qui d'emblée nous a dit en gros qu'il ne verserait jamais aucun argent public à une entreprise, même si elle était coopérative, alors que dans la loi, c'est permis. Et comme le modèle économique est sous-tendu par l'obtention de fonds publics, ben voilà, on s'est retrouvé un peu coincé sur les premières années, et donc on est revenu à un format associatif en 2003, en fait. Et ce qu'on a, on a créé l'association Citizen Café, qui maintenant porte tout le projet du Ducky Link. Le Ducky Link reste un nom d'enseigne, en fait.
Et SCOP, c'est un mot dont on entend de plus en plus parler. Donc en fait, j'imagine qu'aussi, c'était les débuts peut-être de ce modèle-là d'entreprise.
Complètement. Il y en avait très très peu. Je crois que les premières... Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, il faudrait vérifier. Mais je crois que ça date de la fin des années 90. Et en tout cas, des coopératives culturelles, il y en avait, je crois, une ou deux en France à l'époque. Et voilà, on m'était engouffré là-dedans. Et un peu trop tôt, peut-être. Maintenant, encore une fois, c'est un modèle, en tout cas parmi les structures culturelles, qui est assez répandu. La friche, c'est une SIC.
C'est une SIC, oui.
Une SIC. Alors ça, c'est en intégrant une collectivité territoriale dans la SCOP, ça devient une SIC. Voilà, c'est un peu du jargon, tout ça. Mais ce qu'il faut retenir de ces entreprises... on ne peut pas les vendre, un homme égale une voix. Donc voilà, il y a plein de philosophies qui va avec la gestion de ces entreprises qui moi, m'intéresse toujours.
Hein, oui, vous êtes toujours intéressé de peut-être rebasculer vers cette forme?
Alors oui, pourquoi pas. C'est vrai que ça, après 20 ans, on pourrait revenir sur ce modèle-là. Ça peut être un nouveau défi.
Une suggestion pour l'avenir.
Tu m'y fais penser.
Et alors, quel est le spectacle qu'on verra jamais au Ducky Link? Ça, c'est une question difficile. Hein.
Alors, on ne fait pas de stand-up. Donc, tu peux enlever plein de spectacles, du coup. Alors, pourquoi on ne fait pas de stand-up? C'est pas un jugement de valeur. Hein. Voilà, j'adore Blanche Gardin, par exemple. C'est d'ailleurs, bon, si Blanche veut venir au Ducky Link, elle peut. non, c'est le format stand-up qui me plaît moins que des formes plus écrites. Alors, nos spectacles ne racontent pas forcément quelque chose à chaque fois. Mais c'est le format une blague, un rire du stand-up, voilà, qui me plaît moins. Et puis, on a plein de lieux à Marseille qui font ça très, très bien.
Le Garage Comedy Club, par exemple, qui vient d'ouvrir pas loin.
Voilà. Le Marengo Comedy Club au Théâtre de l'Ardu.
L'Ardu, exactement.
L'Ardu propose plein de scènes de Comedy Club.
Exactement, exactement.
Oui, donc
qui est du rire.
Vous venez vous compléter aussi, vous avez des relations avec d'autres salles. Comment vous inscrivez aussi dans le maillage territorial des salles de spectacle?
Alors, j'aime pas le terme petit, donc je dis souvent salle intermédiaire. Parce qu'on est, nous, on a une jauge qui est proche de 300 places publiques, 272 pour être très précis, pompiers. Donc on fait partie de ces lieux de théâtre ou ces lieux culturels intermédiaires. donc ni petit ni gros opérateur, et on occupe une place assez importante en fait, hein, puisque on a souvent réfléchi à cette communauté là. Et en termes de public, on explose tout le monde si on met toutes nos audiences ensemble. Et oui, alors à l'occasion de la crise sanitaire et des confinements, on s'est rapproché de plusieurs théâtres en fait, et on a créé les théâtres des quartiers marseillais, qui regroupent une douzaine, quinzaine, je ne sais plus, mais il y a l'Ardu notamment, il y a la Tête de l'Archange, j'en oublie plein. Et on a essayé de profiter justement de ces temps morts de confinement et un peu sombre pour voilà, essayer de réfléchir. En tout cas, ça nous a servi surtout à s'échanger beaucoup d'informations sur les mesures sanitaires, sur les aides. Voilà, on n'avait pas tous le même niveau de d'informations sur tout ça. Et puis ça, voilà, ça nous a permis aussi de se rencontrer, de voir qui faisait quoi. Et voilà, c'est assez intéressant.
Oui, c'est sûr, parce que trouver du temps pour justement aller à la rencontre d'autres salles, c'est jamais évident au milieu de programmation. Vous programmez beaucoup de choses.
Beaucoup.
D'ailleurs, ce soir, il y a un spectacle. C'est Germinal, les batteurs de pavés. Peut-être que. Les batteurs de pavés, c'est ça. Peut-être que vous pouvez en dire quelques mots et après, on fait une petite pause musicale.
Alors, je vais en dire quelques mots, mais tu vas voir, ça va pas être des mots très, très, très joyeux. En fait, on a été obligé d'annuler la date, en fait, ce soir. Ouais, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure.
Alors, je découvre l'information, oui, c'est du scoop, direct.
Mais bon, au moins, l'information passe. Et en fait, on retrouvera les batteurs de pavés sur Tendance Clown. Voilà, on n'a pas pu assumer cette date pour plein de raisons. Et donc voilà,
mais si on les retrouve, on peut quand même en parler.
On peut quand même en parler, tout à fait. Les batteurs de pavés, c'est une compagnie de rue qui a pignon sur rue depuis des années et des années. C'est une compagnie suisse et qui a pour spécialité de revisiter les grands classiques de la littérature française, en l'occurrence donc la Germinal, qui est bien d'actualité. Et alors sans trahir le concept, généralement donc ils sont deux et ils associent plusieurs personnes du public pour faire le spectacle avec eux en fait. Voilà, donc c'est quelque chose qui est extrêmement dynamique. Ils sont assez respectueux du texte original et donc ça refait découvrir aussi une langue et ses œuvres littéraires, puisqu'il y a Hamlet aussi. Alors ça c'est pas français, mais bon. Bref, il y a Germinal, ils font Les Misérables, ils sont en train de préparer Les Misérables. Et voilà, toujours sur ce même concept d'associer les gens qui sont avec eux du public et de faire une représentation. Donc ils digressent énormément, mais ils gardent quand même une bonne partie du texte original, pas tout. Mais...
Eh bien, on verra ça peut-être en mai, et en attendant, oui. On écoute James Brown, I Feel Good. Ah, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. I feel nice, sugar and spice. So nice, so nice, I got a year. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, my sugar and spice. I feel nice, my sugar and spice. I got a year. Wow, I feel good.
to you. So good, so good. I got to you.
Vous êtes toujours sur le magazine du Midi de Fréquence Mistral et on est toujours avec Christian Favre. On discute au sujet du Dakiling, de ses 20 ans et du festival Tendance Clown qui arrive bientôt en mai. Oui, du 12 au 29 mai. Et jusqu'à présent, le suspense était à son comble car la programmation n'était pas encore dévoilée sur le site. Mais maintenant, j'ai le dossier en main et surtout Christian pour en parler.
Tout sort aujourd'hui en fait. On a réservé l'exclusivité à Fréquence Mistral.
C'est voilà. Génial, on est ravis. Alors, la particularité de Tendance Clown, on a beaucoup parlé de la salle, du lieu en soi du Dakiling. Donc je répète, l'adresse c'est 45A rue d'Aubagne à Marseille. On a beaucoup parlé de ce lieu et la particularité du festival, c'est finalement d'aller s'installer aussi à l'extérieur de vos murs. Là, on ne vous attend pas. Ou là, on commence à vous attendre parce que c'est quand même la 17e édition.
Donc on c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on a fait les premières éditions, notamment en extérieur et dans les parcs, dans l'espace public, effectivement, on débarquait dans des endroits qui n'avaient pas du tout l'habitude de recevoir ce genre de spectacle. Encore une fois, c'était il y a 15 ans, 17 ans, donc même les arts de la rue n'étaient pas encore... reconnus ou n'avaient pas la notoriété qu'ils ont aujourd'hui. Et donc voilà, on nous regardait un peu en biseau. Et puis au fur et à mesure des éditions, effectivement, on s'est aperçu que voilà, les familles revenaient. Alors il y avait des choses assez extraordinaires, puisque donc Tendance Clown explore les différentes tendances du clown d'aujourd'hui. Et comme je disais, souvent ces personnages n'ont plus le nez rouge, quoi. Et donc les familles venaient chercher le clown, quoi. Donc venaient chercher le nez rouge. Et donc sur des après-midi où il y avait 3 ou 4 spectacles, au bout du troisième, on venait me voir des mamans ou quoi, en me disant mais c'est quand les clowns. Et alors j'ai essayé de réexpliquer, etc. Et après tout ça et voilà, et rentrer un peu dans les habitudes et maintenant voilà, on ne fait plus cette réflexion là. Voilà, on a su faire évoluer cette représentation traditionnelle que peuvent avoir la plupart des gens. Du clown.
Maintenant, on vous dit ah, mais il y a des nez.
Ah, mais maintenant, ils ont des nez. Ouais. Ils ont remis le nez.
Et donc, vous allez vous déplacer au Parc Longchamp, Parc Bagatelle, Conservatoire National à rayonnement régional Pierre Barbizet.
Oh, en entier, bravo.
Voilà. 200 ans, hein, j'ai retenu aussi. Parc François Billou, Place des Halles de la Croix et la Cité des Arts de la Rue. C'est les lieux où on va pouvoir vous voir.
Et oui. Et puis enfin, on retrouve nos dates habituelles en mai. Parce que ça fait 2 ans qu'on a été obligé de décaler le festival en octobre, toujours pour les mêmes raisons que vous connaissez, je ne vais pas y revenir dessus. Et donc du coup, cette saison, on a 2 festivals, hein, puisqu'on vient d'en faire un en octobre en fait, qui était donc beaucoup plus en intérieur. Et là, le fait de pouvoir reprogrammer au mois de mai, j'ai pu voilà, retourner dans des parcs, notamment à Biou, ça faisait 3 ans qu'on n'y était pas allé. Et c'est des endroits, j'allais dire, particuliers où on amène du spectacle vers des spectateurs qui n'ont pas l'habitude d'en voir. Et ça fait vraiment partie de nos ambitions. Et ça aussi, on défend un peu la culture pour tous et d'aller au-devant des publics, d'amener le spectacle.
D'autant plus que les spectacles extérieurs sont gratuits. Donc,
tout est gratuit.
Au chapeau,
ça dépend. Ouais, voilà. Dans la tradition des arts de la rue, il y avait cette proposition faite au public, à rien d'obligatoire et selon les moyens de tout le monde, de zéro à l'infini, de pouvoir participer à la fin du spectacle en donnant une pièce ou deux. Voilà, moi, il m'a semblé intéressant de le réactiver. Pas forcément, enfin, pour des questions financières aussi, mais je trouvais que c'était, voilà, que ça allait bien avec la philosophie des arts de la rue. Et après, sur les dates en partenariat avec les mairies de secteur, là, on a un peu de financement. Donc, ça nous permet aussi de faire ça tout, entièrement gratuitement.
Est-ce que vous vous inspirez aussi un petit peu de ce qui se fait à Aurillac, au Festival International des Arts de la Rue ? Est-ce que vous avez des artistes qui sont programmés à ces deux endroits ? Est-ce que c'est des artistes qui sont habitués aussi à la rue que vous programmez, vous ?
Ah, mais c'est mon vivier, Chalon-Aurillac. Ce sont 2 festivals que j'ai fait depuis plus de 20 ans et c'est là-bas que je les ai tous rencontrés, en fait. Et après, par réseau, ça a apporté d'autres projets ou d'autres compagnies qui étaient plus dans des réseaux de théâtre. Mais le, si on regarde la programmation, ils viennent beaucoup des arts de la rue. Ouais. La majeure partie des compagnies avec qui on bosse sont des compagnies dites de rue.
Et comment est-ce que vous choisissez justement les dates qui se font à l'extérieur, les dates qui se font à l'intérieur de votre salle à vous ?
Alors généralement, les week-ends, on est en extérieur, les samedis, dimanches, et les jeudis, vendredis, au Dakiling.
Bah, on espère un beau temps, en tout cas, hein, pour le mois de mai qui arrive.
Ah bah oui. Bah, c'est un meilleur pronostic qu'octobre, en tout cas.
Oui, finalement, c'est un bon mois.
Mais bon, en 17 ans, on a rebasculé des spectacles qui étaient prévus à l'extérieur au Dakiling pour des questions de météo, mais je crois que ça est arrivé deux fois, donc bon, voilà.
Et alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ? Il y a de nombreux spectacles. C'est sûr qu'on ne va pas pouvoir détailler chaque spectacle, mais peut-être des compagnies, pourquoi pas vos compagnies coup de cœur aussi, et comment elles viennent participer aussi aux 20 ans du Dakiling, parce que j'imagine qu'il y a des compagnies que vous retrouvez d'année en année.
Ah oui, il y a du compagnonnage presque même avec certains, où on a fait pratiquement tout leur répertoire, je pense au Carnage Production notamment. Et donc l'idée, oui, là c'est cette saison et donc les 20 ans du Dakiling, et à cette occasion, j'ai décidé de rappeler le 20 spectacles ou 20 moments, puisqu'il y a une expo aussi, qui ont marqué la double décennie. Et donc là, on en a eu un florilège pendant le mois de mars, on a enchaîné 7 spectacles estampillés 20 ans. Et pendant le Tendance Clown aussi, notamment des spectacles de rue qui ne jouent qu'en rue là. Donc on rappelle certains de ces spectacles, notamment donc je viens d'en parler, deux spectacles des Carnages, Dérapage et GIGN qui eux ne pouvaient pas, quoi qu'il arrive, jouer au Dakiling.
Oui, qui sont de toute manière en extérieur.
Je peux pas trop trahir. Alors c'est toujours compliqué hein, de parler des spectacles sans spoiler. Oui, parce que l'écriture de Carnage est souvent des... En tout cas, ces deux spectacles sont vraiment in situ et s'inspirent de moments urbains. En l'occurrence, je ne vais rien spoiler en disant que Dérapage, c'est une intervention de police face à un voisin qui râle contre des personnes qui font un spectacle de rue. Donc voilà, il y a une espèce de...
Mise en abîme.
Mise en abîme, voilà. Donc, évidemment... intervention de police calamiteuse, hein, et on reste bien en Tendance Clown, hein, il s'agit bien de rire, en respectant les forces de l'ordre, évidemment.
Bien sûr.
Et puis vous allez dire qu'ils s'acharnent, les Carnages, puisque le deuxième spectacle, c'est GIGN, donc groupe d'intervention globalement nul, où là, bah, oui, effectivement, vous allez voir, ils sont vraiment nuls. Je crois que GIGN, ils en sont à pratiquement 500 représentations. Enfin, voilà, c'est vraiment du répertoire. Et voilà, c'est à mourir de rire.
Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Compagnie, les 3 points de suspension.
Alors, c'est une année, 3 points de suspension. On avait jamais travaillé avec eux jusqu'à présent. Et cette année, on fait carrément deux spectacles et 4 représentations. C'est une compagnie que j'apprécie particulièrement. On n'avait pas pu se retrouver parce qu'ils ont aussi des très grosses formes. Et puis là, il y a la France-Afrique, la saga de la France-Afrique. Pareil, ça faisait longtemps que je voulais le programmer. Et puis là, ça a été enfin possible. Donc on fait une scolaire. Comment décrire la France-Afrique ? C'est en gros plus de 50 ans d'intervention politique en Afrique. En brossant les différents chefs d'État. Et une anecdote sur ce spectacle, c'est qu'il est en constante écriture, puisqu'il a commencé, on commence avec Valéry Giscard d'Estaing, je crois. Et donc à chaque nouveau président...
Avec les élections qui arrivent.
Et voilà, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'on est juste après les élections, donc il y aura forcément un nouveau chapitre sur ces nouvelles représentations. Avec, ben, on ne sait pas qui pour l'instant, mais voilà. Donc en gros, c'est voilà toute notre histoire coloniale et des morceaux de cette histoire aussi qui sont peu connus, parce qu'on voilà, on parle beaucoup forcément de l'Algérie, etc. Mais il y a d'autres pans d'histoire qui sont méconnus, de la décolonisation, c'est compliqué à dire. et voilà, et toujours avec une écriture alors sur des sujets. Lourd, j'allais dire, historique, mais avec une approche quand même burlesco-comique. Alors on rigole un peu souvent, mais ça fait beaucoup rire.
Parce que leur deuxième spectacle, c'est Hibou. Le thème, c'est la mort. Donc, c'est aussi des sujets qu'on est peu amené à voir sous la forme du rire. Vous parlez de la couleur du rire. Il y a combien de couleurs au rire ? Rire jaune, humour noir.
Humour noir.
On peut rire bleu.
Vert.
Rire vert.
Vert de rire.
Vert de rire.
Ça se dit,
c'est une expression, vert de rire.
Certainement.
C'est quand on est aussi malade en même temps.
En tout cas, mort de rire, ça existe.
Mort de rire.
Et pour Hibou, y a des passages où voilà, on va pas mourir de rire, mais en tout cas, on rigole beaucoup. Et puis d'autres passages, effectivement, qui sont beaucoup plus dans l'émotion. Moi, c'est absolument un coup de cœur absolu, ce spectacle que j'ai vu à Aix là, l'été dernier. Et à l'issue du spectacle, je suis allé voir la diffuseuse et je lui ai dit « Ok, tu m'en mets deux de côté pour Tendance Clown ». Alors j'ai quand même pu le rentrer dans Tendance Clown parce qu'encore une fois, il y a au moins deux séquences qui sont vraiment très drôles. Je crois que tu l'as vu, non ?
Oui.
Et puis après, on est quand même sur une thématique liée à la mort et même au-delà de ça, au rite funéraire en fait. Comment est-ce qu'on aborde cette question-là dans nos sociétés ? Comment est-ce qu'on accompagne nos morts vers l'au-delà ou vers là où on veut justement, et donc la compagnie alors les trois points de suspension ont aussi cette méthode de travail, c'est qu'ils lors de leur création, il y a tout un immense travail de recherche.
Oui, ils s'emparent du sujet
quasi scientifique, enfin scientifique
même. Un comédien
est
croque-mort, il a fait une formation en tout
exactement,
cas.
Un des comédiens est allé jusqu'à se former et à passer le diplôme de croque-mort et a réellement fait
des études de thanatologue.
Ah, mais non, mais il a fait des enterrements surtout.
Ah, oui, d'accord.
Thanatologue, voilà.
Thanatologue,
voilà. Et il a officié officiellement sur des enterrements. Et donc voilà, ça c'est vraiment la signature des trois points de suspension, c'est d'aller vraiment très très loin dans leur recherche et d'être exhaustif dans les propos et dans ce qu'ils veulent raconter. Et ce qui en fait un spectacle qui est juste bouleversant, mais dans le bon sens du terme. Quoi. Encore une fois, moi, ce qui m'a touché aussi dans le côté émotion, c'est que on rit, on pleure de rire, on pleure tout court, mais c'est plutôt un pleur rédempteur, en fait, très positif. En fait, moi, je suis sorti de là un peu changé, et notamment par rapport à des morts, on en a tous autour de nous.
Puis d'envisager notre propre mort aussi.
Et puis voilà, de se projeter aussi et enfin voilà, moi c'est vraiment un gros gros coup de cœur, je vous le recommande absolument, ça faisait longtemps, enfin je suis pas blasé après 25 ans de programmation de spectacle vivant, mais vraiment une grosse claque positive sur Hibou. Voilà, ça faisait bien longtemps que ça m'avait pas aussi bougé personnellement, tu vois.
Après, dans les autres compagnies, on les brosse rapidement. À la limite, tu m'arrêtes quand t'as envie de rajouter quelque chose. Il y a Monsieur Jo, Spectralex.
Ah, Monsieur Jo, je suis obligé de t'arrêter. Mais je vais t'arrêter à toutes.
Ah, alors je vais aller de plus en plus rapidement.
Non, non. Juste sur Monsieur Jo, un homme de petite taille, mais de grand talent, avec qui on travaille depuis des années et des années. Et Jo, qui est maintenant au Canada. Enfin, il est Canadien, mais il habitait à Marseille et puis il est retourné au Canada. Est à l'initiative du CICM. Il faut que je parle du CICM parce que si on fait du clown au Deckling, c'est grâce à eux. Collectif international de clowns off Marseille. Tu vois, ils sont toujours très, très humbles, les clowns. et qui était donc autour de Joe et de Caroline Aubin, de Jean Christian, qui est un collectif qui a travaillé avec nous 2003-2004 et qui venait tester en fait leur numéro, leur spectacle. Et petit à petit, en fait, on a fait des cabarets clowns et on en a fait énormément. En fait, on en faisait tous les mois ou tous les deux mois. Et c'est par l'intermédiaire donc de ces rencontres clowns qu'on a pu tisser aussi tout ce réseau avec tous ces artistes nationaux et internationaux. Et que le projet clown s'est construit autour de ce collectif-là.
Qui existe encore ?
Alors, qui n'existe plus.
Qui n'existe plus.
Mais chacun, ça a formé une compagnie qui s'appelle Saloula. Et on rappelle des cabarets clowns de temps en temps, voilà.
Alors je continue sur la programmation, mais je vais aller vraiment rapidement.
Non, l'Oiseau bleu, je suis obligé de t'arrêter. L'Oiseau bleu, c'est un des spectacles 20 ans, c'est un de mes préférés. Le pitch de l'Oiseau bleu, c'est quand même des armées de chômeurs qui vont envahir la Suisse, et donc un super-héros qui est l'Oiseau bleu va sauver la Suisse de ces invasions. Arnaud Aymar, c'est juste voilà. Arnaud aussi, on a fait tous ses spectacles, Paco chante la paix, Perceval, etc. Il vient faire un stage en avril. L'intitulé du stage, je résiste pas à vous le dire, c'est comment rater son spectacle en toute simplicité. Voilà. Pour vous donner un peu le l'identité du personnage.
Alors après, on aura la compagnie, s'il vous plaît, Tony Clifton Circus, Carnage Productions, on en a déjà parlé, les batteurs de Pavé.
Donc là, ils viennent vraiment. Hein,
les batteurs de Pavé viennent vraiment. Compagnie La Connerie Nouvelle.
Oui, ça aussi, c'est très représentatif du type de compagnie avec qui on travaille. Et le titre du spectacle, c'est Flippant le Dauphin. Donc là, un dresseur de dauphin est en prise avec son dauphin. Et voilà, je ne vous dis pas qui est-ce qui gagne à la fin.
Donc vous avez une piscine au Dakiling aussi.
Alors il vient avec sa piscine.
Ah, mais ça c'est génial.
Il vient avec sa piscine.
La compagnie Toi d'abord, compagnie Matière Première, Ludor Citrique, Boubacar India. Je l'ai bien prononcé ?
Oui. Alors ça, c'est une programmation de nos amis de l'Éolienne. C'est un conte. Et c'est à l'occasion d'une journée un peu particulière. Donc, je t'arrête à ce point-là. Qui se passe sur les Halles de la Croix, en fait. Et tous les ans, en fait, c'est une journée de clôture, en général, où on associe le maximum d'associations de Noailles. Et c'est une journée qui commence par un repas partagé, un repas de quartier, qui est fait par les mamans d'une association qui s'appelle Destination Famille. Et puis il y a des ateliers de pratique artistique, Vélo en ville vient avec ses vélos bizarres, il y a Photokino qui amène sa bibliothèque de rue, voilà, c'est destiné aux familles, aux enfants. Et donc l'éolienne programme un conte, et puis nous on aura la compagnie Lanour avec Mektoub.
Et après on continue, compagnie Matière Première et la compagnie No Kill.
Alors No Kill, ça aussi il faut en parler, donc Electra. Le nom du spectacle, qui est un concert électro, gentil électro, hein, c'est pas du boom boom, mais surtout, c'est un concert avec des hologrammes. Et notamment, à un moment donné, donc le personnage, qui s'appelle Electra, joue au foot avec Mbappé, par exemple. Ben, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc il s'est vraiment amusé à se servir de cette technique holographique pour s'associer plein de personnages. Donc ça reste un spectacle musical. Voilà. Et d'ailleurs, les trois spectacles à la Cité des Arts de la Rue ont des compositions musicales originales, parce que Hibou, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi,
une
BO qui est juste incroyable. Gendarmerie étant un concert de deux gendarmes qui font de la prévention.
Donc sur le site dakiling.com, on va retrouver à partir d'aujourd'hui tous les détails de toute manière.
Tous les détails, n'hésitez pas, www.dakiling.com, D-A-K-I-L-I-N-G. Et il y aura aussi la billetterie en ligne pour acheter vos billets. Et n'hésitez pas à le faire, c'est encore le meilleur moyen de réserver vos places. En fait, c'est le seul moyen de réserver vos places. Et voilà.
C'est du 12 au 29 mai. Et alors, peut-être pour conclure, une question. Quel rire vous avez envie d'entendre pendant ce festival?
Le mien. Oui, parce que voilà, encore une fois, pas blasé. Hein. Tous ces spectacles me font mourir de rire, même si souvent je les ai vus, moi, déjà au moins une fois. Mais voilà, c'est en fait le rire qu'on cherche, c'est vraiment le rire spontané, celui auquel tu peux pas vraiment résister, quoi. Après, il peut être étouffé, il peut être éclatant, peu importe, mais voilà, chercher le rire.
Alors c'est un super festival porté par Dakiling qui nous fait penser donc à Aurillac, à Chalon qui arrive cet été, c'est bientôt l'été. Donc j'ai hésité entre Les Négresses Vertes, Voilà l'été, et Fatal Picard, Punk à Chien, parce que souvent quand on va à Aurillac, cette musique peut y être associée. Donc je vous envoie Punk à Chien et merci Christian d'être venu nous parler de cet événement.
Punk à chien. Moi je suis un punk avec un chien. Même mon chien il est mort d'un cancer de la truffe. C'est bête, je l'aimais bien, il s'appelait Bichous. Il savait tondre la patte et compter la monnaie et faire la différence entre un skin et un vieux. Bonjour monsieur le vendeur, je voudrais un animal, de préférence un chien pour punk à chien. Ah il vous reste plus de chien, il vous reste que des chats pour vieil achat. Bon bah je vais vous prendre ça. Le siamois s'est vendu par deux. Punk à chat. Moi je suis un punk avec un chat. Mais mon chat il est mort d'une cirrhose des moustaches. C'est
fait je l'aimais bien. Il s'appelait Fuck You, il savait se mettre en boule pour attendrir les gens et faire la différence entre un skin et un rat. Bonjour monsieur le vendeur, je voudrais un animal, de préférence un chat papa cachat. Ah il vous reste plus le chat, il vous reste que des poules pour papa poule. Bon bah je vais vous prendre ça avec la laisse à clous. Moi je suis un punk avec une poule. Mais ma poule elle est morte d'un infarctus du bec. Ces bêtes je l'aimais bien, elle s'appelait nos futurs. Elle savait pondre des œufs dans les toilettes du squat et faire la différence entre un skin et un mur. Bonjour monsieur le vendeur, je voudrais n'importe quoi, de préférence vivant, qui tienne jusqu'au printemps. Ah il vous reste plus rien à part un vieux canard blessé. Vous dites qu'il nettoie dans les coins, bon bah je vais vous prendre ça avec un bonnet pour ses oreilles. Peu canard, 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 peu can